Alors, nous avons vu ce passage-là. Gloire à Dieu. Il nous est dit au verset 14, l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Jusqu'à présent, nous avons vu qu'il était important d'avoir un esprit fort, c'est-à-dire d'être fort spirituellement. Beaucoup de gens cherchent à être forts physiquement. Et même si nous devrions prêter attention à notre nutrition, même si nous devrions faire attention à notre temps de repos, eh bien, ce qui va nous sortir, Proverbe chapitre 18, ce qui va nous sortir dans la vie, ça n'est pas une bonne nuit de repos, c'est essentiellement, c'est d'abord d'avoir un esprit qui est fort. C'est-à-dire, la Bible nous dit que c'est pas un esprit, quelque chose qui est différent de nous, c'est nous, hein. Moi, être spirituel, eh bien, je dois être forte. Qu'est-ce qui va me permettre de traverser n'importe quelle crise? Remarquez qu'en devenant chrétien, on n'est pas racheté des difficultés de la vie. C'est-à-dire que la crise que traverse le monde, elle aimerait bien traverser notre vie. Quand il y a des virus, ils aimeraient bien s'attacher à notre corps. Nous avons les mêmes contextes que les autres, les non-croyants, mais nous les traversons avec la force de Dieu, nous les traversons avec la parole de Dieu. Et ici, il est dit que quelqu'un qui est dans la maladie, quelqu'un qui est dans une crise financière, quelqu'un qui est dans une crise relationnelle, quelqu'un qui est dans n'importe quelle difficulté, eh bien, la manière de s'en sortir, c'est d'avoir un esprit fort. Bien sûr que nous avons des gens autour de nous qui nous entourent, hein, nous avons bien sûr un pasteur, nous avons tel et tel ami, nous avons tel et tel parent, etc. Mais nous sommes une génération qui sommes en train d'apprendre à nous déresponsabiliser. Nous sommes en train d'apprendre à placer toute la responsabilité de notre confort, de notre bien-être sur les voisins, sur les autres. Avec le Seigneur, la responsabilité de notre vie repose d'abord sur nous-mêmes, sur nos propres choix et sur ce que nous faisons avec tous les privilèges et les droits que Christ nous a acquis. Alors, nous avons également regardé avec moi dans Proverbes chapitre 24, et c'est un passage qui va confirmer Proverbes. Chapitre 24, il est dit au verset 10, si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que faiblesse. C'est-à-dire que dans un temps d'adversité, si tu faiblis, ton état spirituel est révélé. C'est-à-dire là où tu te croyais fort, en vérité, tu es faible. Une autre version dit, ta force n'est que faiblesse. Une autre version dit, ta force est petite. Qu'est-ce qui va faire en sorte que l'on traverse les temps d'adversité? Qu'est-ce qui va faire que l'on va résister au péché? Qu'est-ce qu'il va faire? Bah tiens, comme tout à l'heure, Jenny nous le disait. Qu'est-ce qui va faire que l'on va être suffisamment fort pour pratiquer les choix que l'on sait être justes? Vous savez, la manière dont on fait des choix, il ne suffit pas simplement de savoir ce qu'il faut choisir. Encore faut-il avoir la force spirituelle pour matérialiser ce choix. Il y a beaucoup de gens qui disent, oui, je sais ce que je devrais faire, mais je fais autre chose. Pourquoi? Parce que finalement, je suis trop faible pour faire ce qui est juste. Qu'est-ce qui va faire que je vais hériter des promesses de Dieu? Ce n'est pas simplement que Dieu a donné des tas de promesses aux chrétiens, c'est qu'il nous faut la force pour exercer notre foi et la force de résister au découragement, la force de résister quand Dieu dit « je t'ai promis telle chose » et que tout autour de nous dit « non, tu n'y as pas le droit » ou « non, c'est pas pour toi » ou « non, ça n'est pas ce que Dieu veut », il faut la force pour résister à ces pressions extérieures et se ranger du côté de Dieu. Hein. Et beaucoup de chrétiens s'attachent uniquement à la connaissance et disent « parce que je sais ce qui m'appartient, ça suffit ». Non, encore faut-il que nous soyons forts pour nous ranger d'une manière pratique dans la vie de tous les jours, que nous ayons la force de faire ce qui est juste. Par exemple, Marie, elle a dit, quand elle s'est coincée le doigt dans le canapé, elle savait ce qu'il fallait faire. Elle savait qu'il fallait qu'elle se tourne vers le Seigneur. Il fallait également qu'elle invoque le nom du Seigneur et qu'elle libère sa foi. Mais si elle avait été faible spirituellement à ce niveau-là, elle aurait su dans son cœur qu'elle devait se tourner vers le Seigneur, mais elle ne l'aurait jamais fait. Elle ne l'aurait jamais exprimé. Elle l'aurait gardé dans son cœur et ensuite elle aurait gardé ses yeux uniquement sur ce qu'elle voyait, sur ce doigt coincé, sur la couleur du doigt et sur la douleur qu'elle ressentait. Vous comprenez? Et ici, il est dit que quand nous tombons, eh bien, cela révèle, à vrai dire, notre force et cela veut dire que notre état spirituel est, à vrai dire, ce que l'on pourrait dire au vu de ce que nous avons étudié au cours des autres sermons, cela veut dire que tout simplement, nous sommes déficients. Alors, il n'est pas question de rester comme cela. Pour être fort spirituellement, nous avons également vu Matthieu chapitre 4, comment être fort. Donc, ça n'est pas un luxe d'être fort. Ceux qui sont faibles spirituellement ont toujours tendance à chercher quelqu'un autour d'eux qui est fort. Parce que les gens ont tendance à puiser de la force de celui qui est fort. L'idéal, alors bon, évidemment, ça va occasionnellement. Hein, on appartient à un corps local, au corps de Christ, et c'est vrai qu'il y a un échange. Ceci dit, l'idéal est que nous grandissions au point que là où nous étions faibles avant, dans les mêmes circonstances, nous nous rendions compte que nous sommes forts maintenant. Et peut-être qu'un jour, nous serons dans des circonstances qui seront tellement différentes ou peut-être tellement imprévues pour nous que face à ces circonstances, on se trouvera découragé et on dira « Oula, c'est un signe, je suis faible, qu'est-ce que l'on fait ? Est-ce qu'on se culpabilise ?» Non, on constate et on dit « Alors je peux faire quelque chose dans cette faiblesse. » Est-ce qu'on se souvient de ce que Paul a dit dans la deuxième épître aux Corinthiens ? Paul a dit, quand je suis faible, il est fort. Amen ? Non. C'est ce que tout le monde a tendance à penser. Parce qu'on sait tous que Dieu est fort et que parce qu'il est fort, je suis fort. Eh bien, l'expérience nous montre que ça n'est pas forcément vrai. Il est tout le temps fort, mais nous pouvons, nous, être faibles à certains moments. Mais nulle excuse pour rester dans cet état, parce que si lui est fort, ça veut dire que je dois savoir comment recevoir cette force de lui dans ma faiblesse, afin que quoi ? Avant de regarder Matthieu chapitre 4, lisons, parce que nous avons tendance à croire cela. Regardez ici dans 2 Corinthiens chapitre 12 et non pas 14, comme je l'ai dit tout à l'heure, je crois. La fin du verset 12, et l'apôtre Paul dit « Quand je suis faible, c'est alors que mon pasteur est fort. » Hein ? Parce que ça, c'est obligé. Mais ça ne nous aide pas forcément, parce que nous avons lu que qu'est-ce qui va te soutenir dans un temps difficile? Eh bien, pas forcément ton pasteur. Normalement, il devrait être là pour te rappeler ce qui fait ta force et non pas pour être fort à ta place. Je vais le répéter. En tant que pasteur, nous devrions être suffisamment remplis de la parole nous-mêmes et oint pour vous rappeler la parole qui vous permet de connaître la victoire, la parole qui vous permet d'être fort dans ce moment de faiblesse. Mais ce que l'on imagine souvent, c'est que si le pasteur est fort, alors sa force, il va me la transvaser, de préférence par imposition des mains, de manière à ce que tout aille très très vite, parce qu'on sait que quand quelque chose se transmet par imposition du main, c'est sur le champ et c'est sans effort. Mais ça n'est pas comme cela que ça marche. Dans la vie de tous les jours, c'est Paul nous dit, là où je suis faible, je suis fort. C'est-à-dire que là où je trouve une faiblesse, j'ai la possibilité de la transformer en force de manière à pouvoir m'en sortir. Et là, les circonstances que l'apôtre Paul décrivait étaient des circonstances qui étaient extrêmes, parce que partout où il allait, il avait de l'opposition. Et d'ailleurs, c'est ce que le livre des Actes confirme, hein, que partout où il allait, des esprits religieux suscitaient des divisions, suscitaient de la persécution, suscitaient de l'opposition. Et Paul avait de quoi se sentir faible, à tel point qu'à un moment, il dit, Seigneur, mais et ta grâce, je n'ai que ta grâce. Et le Seigneur lui dit, mais ma grâce te suffit. Paul savait que la grâce de Dieu, c'est-à-dire cette puissance intérieure qui lui permet et qui est imméritée, là, et si vous voulez, ce qui est mis sur la grâce, c'est que nous ne méritons pas. Nous ne méritons pas ce que Dieu nous donne, mais il nous le donne quand même. Quelquefois, à force d'entendre que c'est immérité, on finit par ne plus utiliser ce que Christ a pourvu pour nous à la croix. D'accord, c'est immérité, mais il nous le donne, il nous a donné, il nous a équipés de tout ce qui nous permet de vaincre dans ce monde. Et la Bible dit que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Hein? Mais ici, les circonstances étaient extrêmes et l'apôtre Paul est en train de dire, mais Seigneur, il n'y a que ta grâce, il n'y a que ce que tu m'as donné, je ne le mérite pas. Et le Seigneur dit, fais quelque chose avec cela, parce que ma grâce te suffit, il suffit que tu t'en serves. Et ici, l'apôtre Paul arrive à conclure, alors quand je suis faible, je suis fort. C'est-à-dire que l'apôtre Paul dit, je n'ai aucune excuse pour rester dans cet état dans lequel je me trouve. Le Seigneur va se servir de cette faiblesse-là comme tremplin dans ma vie. Qu'est-ce qui soutient l'homme dans une situation de crise? C'est la force qu'il a dans son propre esprit. D'accord? Maintenant, regardez avec moi dans Matthieu chapitre 4. Alors, comment être fort? Alors, je ne vais pas revenir sur ce qui a déjà été dit. Néanmoins, ce verset, nous allons le relire en mettant l'accent sur un aspect particulier. Nous avons vu que la seule manière d'être fort spirituellement, c'est de manger. Comme nous sommes forts naturellement, être fort spirituellement, nous devons manger et nous assurer que ce que nous mangeons est bon, est sain, est sain, S-A-I-N, spirituellement, c'est-à-dire la vraie parole de Dieu. Dépouillé de la tradition, dépouillé des bonnes intentions, dépouillé des idées humaines, dépouillé de toute philosophie, je dois manger la parole de Dieu parce que cette parole me nourrit. Est-ce suffisant pour être fort spirituellement? Bien, c'est très simple. Dans le naturel, nous avons cette analogie. Comment imaginer quelqu'un qui veut être un haltérophile et qui a un rêve, qui dit, moi, je voudrais aller, je voudrais décrocher des médailles, je me vois aux Jeux Olympiques, et je sais exactement, j'ai un rêve, etc. Donc, il dit, il faut que je sois fort, et qui passe son temps à manger, manger, manger. Alors, quand on sait, en plus, ce qu'un haltérophile mange, hein, quoi, 4 fois, 6 fois par jour, c'est énorme. Et puis, c'est pas une poire, hein, avec une tablette de chocolat à 10 heures. C'est, il mange des repas entiers. C'est gargantuesque. Mais c'est également choisi, c'est sélectionné. Bien, imaginez que cet haltérophile ou que ce candidat aux médailles ne fasse que manger. Que se passerait-il? Il grossirait, il deviendrait obèse, et est-ce qu'il pourrait soulever? Il y a de grandes chances qu'il n'en soulève pas plus après cette façon de manger qu'avant. Peut-être moins à cause de toute la graisse qu'il a soulevée en plus. Est-il suffisant de manger la parole de Dieu seulement? C'est ce que beaucoup de chrétiens pensent. Matthieu chapitre 4 nous dit au verset 4, dans le contexte de la tentation de Jésus, il est dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, il ne nous est pas dit que l'homme puise sa vie de la parole de Dieu qu'il entend. Il n'est pas dit que la parole de Dieu que nous entendons est suffisante. Il est dit qu'elle doit nous faire vivre. Et cela veut dire qu'il doit y avoir une application. La parole de Dieu que nous entendons doit être non seulement utilisable, ce qu'elle est, parce qu'elle est vivante et efficace, ce que nous dit Hébreux, mais elle doit être praticable. Elle doit être utilisée, cette parole-là. Uniquement manger, manger, sans jamais l'utiliser, c'est-à-dire sans jamais faire d'exercice, mes amis, c'est du leurre. Ce qu'un autre apôtre nous rappelle, nous le verrons tout à l'heure. Nous devons pratiquer la parole de Dieu qui nous est révélée. D'ailleurs, c'est si important que quelqu'un qui ne fait que entendre la parole de Dieu et qui n'utilise pas ce qui lui est révélé, à un moment, le flot de la révélation commence à tarir. Et il n'y a plus que quelques gouttes de révélation ici et là. Mais la révélation devrait être constante. Constamment, nous devrions entendre des choses qui nous sont révélées, la parole de Dieu, lors d'un sermon. Par exemple, pendant que je vous prêche, vous devriez entendre autre chose que les paroles que je vous dis. Vous devriez, par exemple, je peux écrire des sermons entiers pendant que j'entends un message. Parce qu'il y a cette inspiration qui est là et je me dis, ah, ça me fait penser à cela et ça me fait penser à tel verset et ça me fait penser à telle autre chose. Et pendant que le prédicateur passe, j'ai mille et un sermons qui me viennent. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit qui nous enseigne, qui est l'enseignant de l'Église, est en train de nous révéler. Chaque chose que nous avons comprise de la parole de Dieu est une intervention du Saint-Esprit. Est une opération du Saint-Esprit qui n'est pas négligeable. Donc si un jour nous nous trouvons en train de lire des livres sans jamais rien comprendre ou en train d'écouter des messages ou lire la Bible sans rien comprendre de plus que nous avons compris auparavant, cela veut dire que le flot de révélation tarit, il se dessèche. La première question que je veux me poser, c'est est-ce que je marche dans l'amour? Parce qu'on sait que si on sort de cette marche de l'amour-là, ça c'est certain, on marche plus à la lumière de Dieu. Hein. Première, mais si on peut dire oui honnêtement, je pratique ce que je sais de la parole de Dieu, ma marche dans l'amour est correcte, non, ça va, hein. Eh bien, la deuxième chose, la deuxième question que je vais me poser est, est-ce que j'ai fait ce que Dieu m'a révélé? La dernière chose que Dieu m'a dit de faire, est-ce que je l'ai faite? Parce que si Dieu me dit quelque chose, me révèle quelque chose à faire et que je ne le fais pas, pourquoi me révélerait-il davantage ? Et Dieu ne veut pas que nous soyons des obèses spirituels. Réalisons-nous que tout ce livre-là a à voir avec le verbe faire. Parce que connaître sans faire ne mène pas à grand-chose. Nous devons vivre de la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, l'homme ne puisera pas d'une baguette de pain la force de faire. D'un point de vue naturel, oui, quand je mange la nourriture naturelle, cela me donne la force. Mais de quoi? De rester toute la journée assis sur mon canapé? Non. Pourquoi est-ce que je mange? Pour avoir la force de faire ce que je dois faire au cours de la journée. Il est dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, c'est-à-dire que je ne peux pas, avec la nourriture naturelle, faire les choses spirituelles. Mais une fois que j'ai mangé la parole de Dieu, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu me permet de vivre, pas simplement de grossir spirituellement, pas simplement de connaître et d'avoir une grosse tête spirituelle. Qu'est-ce qui fait un religieux ? La connaissance. Qui s'arrête à la connaissance. Sais-tu qu'à un moment, le livre des Proverbes dit que trop de science n'est pas bon ? Et il y a des fois où il faut arrêter de lire et de dire, ok, il faut que je fasse maintenant. C'est-à-dire, il faut que je m'exerce, il faut que je pratique. Et il est utile, parfois, de faire un inventaire spirituel. De dire, ok, avant, peut-être, dans ce cas-là, j'avais l'habitude de lire plus ma Bible. Avant, j'avais l'habitude de prier plus. Avant, je priais plus en langue. Avant, j'étais plus rapide à demander pardon à quelqu'un. Mais aujourd'hui, je connais tellement de versets bibliques que je peux plaider mon cas et argumenter. Au lieu d'obéir, au lieu de garder un cœur sensible devant Dieu. Avant, j'étais plus rapide à dire « Oui, Seigneur, je vais le faire tout de suite ». Avant, j'étais plus rapide à corriger mon enfant. Aujourd'hui, je me rends compte que je laisse tout faire. Hein? Tant qu'il est corrigé, mais en tout cas, après. Et il est bon de faire des inventaires spirituels, pas pour « Oh, pauvre pécheur, je suis un pauvre ». Non. Pour rectifier le tir, hein? Ça ne sert à rien de rester sous le joug de la culpabilité. Le pardon, il est là pour toutes sortes de péchés, mais d'être honnête et de grandir. Personne ne grandit uniquement nourri. Imagine que tu donnes à un enfant de 2 ans, tu ne le laisses pas courir. Tu ne le laisses pas monter sur tous les jouets qu'il peut avoir dans sa chambre, ses toboggans, c'est tout ce que tu veux. Tout ce que tu fais, c'est tu le nourris et tu le gardes dans son lit. Sa force sera faible. Parce qu'on croira qu'il a des muscles, parce qu'il est gros, mais il n'aura aucune force pour tenir sur ses jambes. À cause de quoi ? À cause d'un manque d'exercice. Utiliser sa foi est un autre exercice spirituel. Si tout ce que je fais, c'est savoir ce qui m'appartient en Christ, qui je suis en Christ et ce que Dieu peut faire à travers moi et que je ne m'en sers jamais, que je ne m'achète que ce que mon salaire me permet d'acheter ou que je ne donne que ce que mon salaire me permet de donner et que jamais je n'exerce ma foi en suivant le Saint-Esprit comme tout à l'heure Patricia nous l'a dit, dans ces cas-là, jamais je ne grandirai. Si quand, par exemple, j'ai une pensée de doute, d'incrédulité, de suspicion qui vient et que je la garde et que je la cajole et que je la couvre, la Bible dit de nous séparer de ce genre de pensée-là, de ne pas accepter de penser de la sorte, parce que ça n'est pas digne, ça n'est pas louable, ça ne rend pas gloire à Dieu, ça nous dessert plus qu'autre chose. Et qu'on a cessé de le faire, nous avons cessé de faire des exercices spirituels, de pratiquer la parole de Dieu. Alors ma question, est-ce que nous avons grandi ou est-ce que nous avons rétrogradé? Le surplace n'existe pas en Dieu, parce que Dieu est un Dieu de mouvement. Acte nous dit, en lui j'ai la vie, le mouvement et l'être. Ils étaient un petit peu timides, c'est amen, mais... je prêche mieux que vous ne m'encouragez. 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4. La première chose pour avoir un esprit fort, c'est d'être nourri de la pure parole de Dieu. Et la deuxième chose, nous commençons à le comprendre, mais c'est clairement écrit dans la première épître à Timothée. Première épître à Timothée, verset 6. L'apôtre Paul dit à ce jeune pasteur, il dit en exposant ces choses aux frères, c'est-à-dire ceux qui, les instructions que Paul lui a données de la part de Dieu, c'est-à-dire ces instructions n'étaient pas qu'un conseil humain, ces instructions sont devenues parole de Dieu. Au point qu'aujourd'hui, elles le sont encore pour nous. D'accord ? Et au verset 6, Paul dit en exposant ces choses aux frères, « Tu seras un bon ministre de Jésus-Christ. » Alors, peut-être que vous dites, « Moi, je ne me sens pas concernée parce que je ne suis pas appelée à être un prédicateur de l'Évangile. Je ne suis pas appelée à être un apôtre, un prophète, un évangéliste. » un pasteur ou un enseignant de la parole de Dieu. Ça n'est pas ce qui est écrit. Ici, c'est un ministre de Jésus-Christ et le mot ministre veut dire un serviteur. C'est un mot qui fait très pompeux, mais ramené à sa vraie définition, il perd un peu de sa gloire. Parce que c'est un serviteur. Nous sommes tous appelés, en tant que chrétiens nés de nouveau, à servir Jésus-Christ, mais pas avec nos propres forces. Il nous est dit, nourris des paroles de la foi. La parole que nous entendons, si elle vient vraiment de Dieu, devrait produire en nous la foi. La foi pour servir Dieu. Nourris. Cela veut dire qu'il faut qu'on mange. Il ne suffit pas d'entendre la parole. Il faut la recevoir. Il y a beaucoup de gens qui s'assoient dans un culte sans recevoir la parole de Dieu. Tu sais qu'il ne suffit pas que je sois assise devant une bonne tagine. Qu'est-ce qu'on dit ? Un ou une ? Un tagine ? Allez, un tagine ! Citron confit, artichaut et olive verte. Eh, dis donc. Il ne suffit pas d'être assis devant ce genre de plat, hein, ou une choucroute pour les plus chauvins, pour être nourri. Encore faut-il que je reçoive cette nourriture. Et cela... Hein? Et cette nourriture spirituelle, il ne suffit pas que j'ouvre ma Bible et que mes yeux voient la parole pour que je sois nourrie. Il faut que dans mon cœur, je la reçoive et que je la laisse se déposer dans mon esprit, pas dans ma tête. C'est ce qui est dans mon cœur qui me nourrit, pas ce qui est dans ma tête. C'est pour ça que Dieu n'est pas forcément impressionné par notre mémoire. Il est impressionné par ce qui est dans notre cœur. Hein? Mais ici, il est dit, nourris des paroles de la foi, donc pour être un bon serviteur de Jésus-Christ, nourris des paroles de la foi et de la bonne doctrine, qui veut dire simplement enseignement, que tu as exactement suivi. Repousse les contes profanes de vieilles femmes. Alors évidemment qu'on ne peut faire la différence entre, on ne peut que faire la différence entre un conte de bonne femme. Moi aussi, j'ai des tas d'idées qui viennent quant à cela, parce que on va pas être. Non. Alors, les contes, ou alors les mythes, ou les traditions, on ne peut faire la différence entre ces choses et la parole que si on est exposé à la parole. Mais ça, c'est encore un autre chapitre. Mais ensuite, il est dit, toujours dans le but d'être un bon serviteur, un bon ministre, il est dit, exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, mais il est utile quand même. Moi, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de chrétiens qui font du sport. Parce qu'ils pensent qu'ils sont tellement spirituels qu'ils doivent passer leur temps à l'église. Et que certains, ils seraient beaucoup plus agréables à vivre s'ils allaient s'aérer les idées sur un cours de golf, de tennis ou du cheval ou même à la pétanque. C'est OK de s'amuser et de faire de l'exercice qui va rafraîchir notre corps ou rafraîchir notre âme. Toutefois, il est dit, c'est utile à peu de choses. Il y a quelque chose qui est plus utile que l'exercice corporel. Et il nous est dit, c'est l'exercice de la piété. Elle a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et digne d'être reçue. Qu'est-ce que la piété ? La piété, c'est la pratique de la foi. Tout simplement, c'est la pratique de notre foi, la piété. Et ici, l'apôtre Paul dit, si tu veux être un bon ministre de Jésus-Christ, c'est-à-dire quelqu'un qui est équilibré, il te faut, être nourri des paroles de la foi et du bon enseignement que tu reçois. Mais c'est plus que cela. Encore faut-il qu'après tu le mettre en pratique et que tu acceptes d'exercer ton esprit avec les choses qui t'ont été. Parce qu'être non ne suffit pas. Maintenant, si nous recevons une nourriture qui est bonne et équilibrée, et que nous pratiquons ce que nous entendons, ce qui nous est révélé, que nous exerçons spirituellement. Vous savez que la prière est un exercice spirituel. C'est dur de prier jusqu'à ce que l'on ait atteint une certaine habitude. Et ensuite, on dit, oh, avant je priais 5 minutes, maintenant je peux prier 6. Hein? Et puis après, on prie pendant 6 minutes, et après on dit, oula, maintenant je prie 10 minutes, maintenant je peux prier un quart d'heure, maintenant je peux prier 1 heure. Hein? Et avant, je pouvais exercer ma foi pour un rhume. Maintenant, je peux exercer ma foi parce que j'ai utilisé ce qui m'a été révélé, je peux l'utiliser pour une entorse. Et puis maintenant, je peux l'utiliser pour une fracture. Et puis avant, il me fallait 2 semaines pour voir le résultat. Maintenant, c'est en 3 jours. Vous voyez, l'exercice de la foi, combien c'est important. Et non seulement l'exercice de la foi, mais quand nous sommes bien nourris spirituellement, tous les domaines de notre vie sont équilibrés et forts. Sinon, nous ressemblons à un haltérophile qui aurait mangé, mais qui n'aurait exercé que ses jambes. À quoi ressemblerait-il, à un monstre? Il aurait des jambes énormes. Ah, c'est vrai, on lui verrait tous les muscles. Mais alors, un tout petit, style coton-tige, abdomen, des bras comme des allumettes, un cou comme une punaise. Mais est-ce qu'il arriverait D'abord, est-ce qu'il arriverait à fonctionner? Et puis, question, est-ce qu'il arriverait à atteindre les rêves qu'il a? Jamais. Jamais. Hein? Et il n'arriverait pas. Imaginez cet haltérophile-là qui a des jambes énormes comme les piliers qui soutiennent les meilleurs ponts que l'on a dans notre monde. Mais une fois qu'il essaie de soulever les poids, il ne pourrait pas en soulever davantage. Hein? Et puis, tous ses rêves tomberaient à l'eau. Combien de chrétiens ont des tas de rêves, mais ont un tel déséquilibre dans l'exercice de la piété qu'ils ont des rêves qu'ils n'atteignent jamais. Et puis, vu de l'extérieur, c'est assez bizarre à voir. Imaginez cet haltérophile qui a uniquement travaillé les muscles du cou. Ils sont gros, c'est... Hein, il a des muscles, alors c'est magnifique, mais alors tout le reste, c'est coton-tige. Quelle serait notre réaction? Exactement celle que vous avez. On sourirait, on rirait, en disant qu'il y a quelque chose qu'il n'a pas tout à fait compris. Il est important, vous savez, Dieu est celui, quand on a une communion vivante avec Dieu, il nous nourrit dans tous les domaines de notre vie. Il nous donne à manger pour que nous soyons forts dans nos relations, pour que nous soyons forts dans notre marche en amour, pour que nous soyons forts dans le domaine matériel, forts dans notre autorité vis-à-vis des démons, forts dans la prière, forts dans la foi pour des difficultés physiques, forts dans tous les domaines de notre vie, forts pour résister au découragement face à certains choix des enfants, forts pour recevoir la sagesse de Dieu pour les élever. Fort pour savoir comment nous sortir de telles situations. Et dans une communion vivante avec Dieu, Dieu va nous nourrir d'une manière équilibrée. Dieu n'a jamais voulu des enfants qui ressemblent à des monstres. Ça n'est pas cela. Donc il va nous nourrir. Et puis il va nous nourrir évidemment à l'église, et puis il va nous nourrir à travers les enseignements que nous recevons de telle ou de telle autre source. Mais tout va être équilibré. Mais jamais il ne pourra faire quelque chose pour toi. C'est utiliser ce que tu sais. Faire des exercices avec la parole qu'il t'a donnée. Personne ne peut le faire à ta place. Personne de chez personne. Ce que nous avons tendance à faire, c'est aller vers les versets chouchous, ceux qui ne nous mettent pas trop au défi et qui nous gardent dans une zone de confort. Là, on a déjà de bons muscles et on se fait plaisir en soulevant les mêmes poids parce qu'on dit « Regarde, comme je suis fort, je peux soulever tout ce poids !» Évidemment, tu as passé ton temps à exercer ta foi dans le domaine physique. Donc, évidemment, pour toi, la maladie, c'est plus un problème. Mais dans les autres domaines où tu sais que tu es faible, eh bien, soyons honnêtes. Fais face à cette faiblesse et utilise. Et tu sais quoi, ça va changer. Parce que moi, je ressemble à cet haltérophile là. Il y a quelque chose qui ne va pas dans l'image. Qu'est-ce que Dieu veut? Il veut que dans tous les domaines de notre vie, nous expérimentions la rédemption. Et il nous a dit, nourris des paroles de la foi, mais il dit, exerce-toi à la piété. Regardez avec moi dans Josué chapitre 1. Alors c'est vraiment une invitation à faire un inventaire et à se demander dans quel domaine de notre vie nous ne sommes pas en train de pratiquer ce que nous avons compris. Alors, Dieu est bon, surtout quand on démarre dans la foi. Le Seigneur a beaucoup de patience avec nous, comme nous en avons avec des nourrissons, avec de jeunes enfants. Mais à un moment, eh bien, il va nous laisser mettre en pratique ce que nous savons. Et si nous ne mettons pas en pratique ce que nous savons, eh bien, c'est lui qui va cesser. Il y a une assistance particulière pour les jeunes chrétiens. Il y a une assistance. Il suffit qu'ils ouvrent la bouche pour dire « Père, je voudrais, hop là, ça y est. » Mais au bout d'un certain moment, il va dire « Tu sais, maintenant, ça va être ta foi qui va te faire vivre. » C'est-à-dire la parole que tu es en train d'utiliser. Josué, chapitre 1, il est dit au verset 8 « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. » Pour recevoir un diplôme de la fac de théologie. C'est ce qu'il est dit ? Non, il est dit, médite-le jour et nuit pour que ton pasteur soit fier de toi quand tu ouvres la bouche. Médite-le jour et nuit pour exercer ta mémoire, juste au cas où. Non, il est dit, une seule raison, médite ce qui est écrit, pas dans n'importe quel livre, dans la Bible, jour et nuit, pour agir, pas à ta guise, ne rajoute pas la parole de Dieu, pour agir fidèlement, selon tout ce qui est écrit, car c'est alors, et j'ai envie de dire c'est alors seulement, que tu auras du succès dans tes entreprises. Le succès dans ma vie ne dépend pas de l'économie de ce monde, ne dépend pas de ce que mon employeur veut, peut, ne veut pas, ne peut pas me donner, ne dépend pas de ce que mes parents disent de moi, me lèguent ou me lèguent pas ou ne disent pas, ne dépend même pas du conjoint, non. Le succès dans mes entreprises dépend de la parole de Dieu que je mets en moi et de ce que je fais avec cette parole. Les circonstances n'ont aucun... ne peuvent en aucun cas décider de ma destinée. Je trouve ma destinée dans la parole, mais c'est à moi de pratiquer cette parole. Regardez également dans Jacques au chapitre 1. Alors, la responsabilité repose entièrement sur nos épaules, même pas sur celle de Dieu, puisque la parole de Dieu est venue jusqu'à nous. Dieu a vu la soif de notre cœur. Et il s'est arrangé pour y répondre. Maintenant, à nous de recevoir cette parole et de faire quelque chose. Verset 16, il est dit, ou même on peut commencer. Verset 22, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, tu veux être libre dans telle situation. Tu veux être libre vis-à-vis de telle maladie. Tu veux être libre vis-à-vis de tel sentiment. Tu veux être libre vis-à-vis de telle façon de parler. La parole de Dieu. Mais qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, ce qui me laisse entendre que celui qui ne fait qu'écouter oublie. Et à quelque chose de juste dans le fait qu'on n'oublie pas ce qu'on a pratiqué. Mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Et un autre mot pour heureux, c'est celui-là sera béni. Pas parce que Dieu maudit les autres, non. Celui-là pourra expérimenter la bénédiction que Christ a achetée pour lui à la croix. Comment est-ce que nous pouvons mesurer la rédemption qui est la nôtre? Comment pouvons-nous repousser les limites que ce monde a placées sur nous et vivre la liberté glorieuse des enfants de Dieu en pratiquant la parole de Dieu? En nous exerçant à pratiquer cette parole. Alors, c'est un choix qui est personnel. C'est un choix que Dieu ne nous imposera jamais. Jamais Dieu ne nous fera tomber dans un chantage, ne nous manipulera, jamais, 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 jamais. En revanche, il nous confie davantage en fonction de ce que nous faisons avec ce qu'il nous a donné. Ça, c'est la part de Dieu. Mais il y a plus que cela. Dans Matthieu chapitre 7, Matthieu, nous connaissons ce verset. D'ailleurs, le fait de pratiquer la parole de Dieu nous rend sages. Parce que parfois, on a tendance à croire qu'on est en meilleure forme que ce que l'on est vraiment. Qu'est-ce qui révèle la forme spirituelle ? C'est ce que l'on est capable de faire. Qu'est-ce qui révèle la forme physique ? L'exercice. Par exemple, si quelqu'un entend parler d'un marathon, imaginez que cette personne voit un marathon à la télévision, voit le Tour de France, et avec sa boisson bien rafraîchissante, il est en train de la boire, une paille à la paille, on peut imaginer cela, il est devant sa télé et il voit le Tour de France. Il est complètement inspiré, comme beaucoup vont l'être quand il va y avoir le Grand Prix et que une semaine avant, une semaine après, on va entendre les moteurs dans la rue, boum, 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 même s'ils ne sont pas à Monaco, hein, tout le monde est inspiré par cela. Mais là, pour ce Tour de France, les gens sont inspirés. Et donc, de leur canapé, ils décident, mais moi je peux aussi. Oh là 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 là, aucun problème. Je peux, je me souviens, hein, pour un peu que le papa et le fiston à ses côtés et qu'il a besoin de lui rappeler ses exploits passés, il va dire, mais oui, mon fils, moi je le fais, ça, cette côte-là, c'est rien du tout. Moi, quand j'avais ton âge, vous avez entendu ça? Hein? Moi, quand j'avais ton âge, mais quatre fois plus vite que celui-là, c'était pas un maillot jaune qu'on m'aurait donné, c'est quatre l'un par-dessus l'autre qu'on m'aurait donné, tellement j'étais bon. On les aurait empilés sur moi. J'aurais le maillot jaune, j'aurais le short jaune, j'aurais la bicyclette jaune, j'aurais les tennis jaunes, j'aurais tout jaune, tellement j'étais bon. Et le fils dit, bah tiens, eh ben on va le faire. Aucun problème. On décroche les vélos qui sont accrochés et poussiéreux dans le garage et on monte dessus et on attaque la première côte. Quatre coups de pédale plus tard. Je suis allée en Bretagne et l'île d'Ouessant m'a inspirée. Et une bicyclette, pratiquement tout le monde a appris à faire de la bicyclette étant jeune. Hein. Donc il y a de bons restes et vous pouvez visiter l'île à bicyclette. J'étais avec ma mère, j'étais avec mon frère, certains rient là. Hein. J'étais avec ma mère, j'étais avec mon frère et puis donc mon frère dit ouais, « Tu sais qu'on peut faire le tour de l'île à bicyclette et tout ça, ce serait marrant, ce serait marrant. » Et puis moi, bien, les méninges bien aérés par l'iode breton, je dis « Écoute, ouais, ce serait vraiment marrant, j'ai oublié que Ouessant, c'est pas les Pays-Bas. » Donc ma mère, elle a dit « Non, non, moi je reste là. » Je dis « C'est bon, c'est bon, c'est bon. » Et on a commencé par une descente. Jusque-là, tout va bien. Mais il n'y avait pas que des descentes sur l'île. Et après la descente, il y avait la montée. Eh ben, c'était vraiment quatre coups de pédale plus tard. Hein. Il dit, aïe, aïe, Michel, j'en peux plus là. Je lui ai dit, écoute, ouh là là, c'était l'horreur. C'était l'horreur. Alors, il a été gentil parce qu'en plus, mon frère étant sportif, il n'a pas essayé de jouer le malin. Non, 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 non. Il m'a juste attendu. Et puis après, il a commencé à faire un tour de bicyclette, pratiquement sur place, et faire un deuxième tour de bicyclette. Et pendant ce temps, moi, je montais à pied, en poussant la bicyclette. Et puis, après, on est arrivé sur du plat et je me suis dit, attends, il y a une autre manière de faire de la bicyclette, hein, c'est de laisser mon frère juste devant, à côté de moi, de lui mettre la main sur l'épaule et de dire, allez, on fait le tour de l'île. Hein. Et ben, c'est exactement ce que j'ai fait. Hein. On ne peut pas avoir des muscles, mais on peut avoir une tête. Alors, c'est ce que j'ai fait. Mais spirituellement, eh bien, on a quelquefois tendance à se laisser emporter parce qu'on ne fait plus d'exercice depuis longtemps. Et on a tendance, si on ne fait pas attention, à se lancer dans des projets qui sont trop grands pour notre foi, parce que depuis pas mal de temps, on n'a pas utilisé des versets bibliques pour tel et tel, dans tel et tel domaine de notre vie. Et on se trouve en train de croire pour que le Seigneur change notre voiture, alors qu'on n'a pas exercé notre foi depuis longtemps pour qu'il nous donne un bon plat de pâtes comme il devrait être fait. Mais on se rappelle des anciens exploits et on dit « Non, mais je connais les versets bibliques, il n'y a pas de problème. Je ne les ai pas utilisés depuis longtemps, je n'ai pas exercé ma foi depuis longtemps, mais je connais, je m'en souviens. Je me souviens de ces côtes que je faisais hein, quand j'avais 15 ans et de la vitesse à laquelle je pédalais. Je me souviens de cela. » 35 ans plus tard, petite côte Ouessantine, un peu de vent, même dans le bon sens, un vent dans le dos, hein, un vent dans le dos, ça ne suffisait plus. Pourquoi ? Parce qu'entre-temps, j'avais cessé de m'exercer. Spirituellement, c'est exactement la même chose. Matthieu chapitre 7, et nous connaissons ce passage, verset 24, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis, et les mémorise et les stocke sur son ordinateur sera semblable à un homme prudent ou se fait des petites notes qu'il affiche sur son réfrigérateur avec un petit aimant de manière à les voir sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. C'est ce qu'il est dit? Non. C'est pourquoi celui qui entend ces paroles et puis les entend dans sa voiture et puis les entend en se branchant sur une radio chrétienne et puis lit sa Bible la première chose quand il se lève le matin et puis lit sa Bible avant de s'endormir le soir et puis écoute encore sur son iTouch un enseignement. Non. Celui qui entend et qui met en pratique. Maintenant, tu ne peux pas pratiquer ce que tu n'as pas entendu, mais il est possible de ne pas pratiquer ce que tu as entendu. Celui-là, là, c'est la vie de Dieu. Hein. Moi, quand j'entends un message comme cela, je me dis, Seigneur, qu'est-ce qui arrive ? Qu'est-ce qu'on va besoin d'avoir comme force spirituelle ? Parce que vous croyez que le Seigneur n'a pas d'autre message à nous donner que celui-là ? Ne croyez pas que le Seigneur a d'autres, il y a mille et un autres messages. Ma question, c'est vraiment celle que j'ai devant Dieu. Pourquoi, Seigneur, nous rappelles-tu que nous devons pratiquer ce que nous entendons ? De quelle force aurons-nous besoin dans les jours, dans les semaines et dans les mois à venir ? Il est dit verset 25, « La pluie est tombée, les torrents sont venus ». Les vents soufflaient. Il y a des vents qui soufflent sur ce monde en ce moment. Hein? Et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée. Pourquoi ? Parce qu'elle était fondée sur le roc. Qu'est-ce qui nous permet d'être fondés sur le roc ? La pratique de la parole, pas la connaissance seulement. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, nous avons le choix, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. C'est-à-dire que de l'extérieur, les deux maisons sont aussi jolies, sont aussi belles, tout va bien. Mais c'est la tempête qui va révéler de quoi la fondation est faite. La pluie est tombée, les vents sont venus, les mêmes circonstances, les mêmes crises, les mêmes moments d'adversité. Les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Et la Bible nous dit, il n'y a pas de question, elle est tombé. Et sa ruine, c'est le même mot que catastrophe, sa ruine a été grande. Est-ce que ce sont les... Si la maison est tombée, si ce chrétien a connu la défaite, est-ce que c'est à cause de la vitesse du vent, de la force de la pluie, de la densité pluviale? Non, ça n'a rien à voir avec les circonstances extérieures. C'est ce qu'il a fait avec ce qu'il savait. Aucune circonstance de ce monde n'a la puissance de ruiner notre vie. Aucun péché n'est trop fort pour que nous cédions à la tentation. Aucune circonstance négative est trop grande pour nous garder dans le découragement. La Bible nous dit clairement que la victoire qui triomphe du monde, ça n'est pas des circonstances faciles, c'est ma foi. Ma foi à avoir de ce que je pratique de la parole de Dieu. Alors je vais vous encourager à vous laisser guider dans la parole de Dieu par le Saint-Esprit pour qu'il vous amène vers les domaines de votre vie qui ont besoin d'être fortifiés. Si le Seigneur vous avait montré un domaine de votre vie où il fallait que vous mettiez en pratique, que ce soit au niveau des pensées, que ce soit au niveau du temps à consacrer à quelque chose, je vais vous encourager, faites-le. Parce que quand les vents soufflent, vous pouvez rester debout. Quand la pluie tombe, mais tombe au point que l'on devrait être inondé comme les autres, notre maison tiendra debout. La famille tiendra debout. Les finances tiendront debout. La santé tiendra. La santé résistera à cela. Pourquoi ? Parce que je suis forte. Ma fondation, elle est solide. D'accord ? Seigneur, nous voulons te remercier de ce que tu es celui qui enseigne l'Église par le ministère du Saint-Esprit. Et nous nous attendons, Saint-Esprit, à ce que tu nous rappelles toutes ces choses. Et nous t'en remercions. Nous voulons être un chrétien fort, de manière à être une source d'encouragement pour ceux qui ne le sont pas, afin qu'eux aussi deviennent forts de ta force. Seigneur, nous te disons merci, nous comptons sur toi, parce que tu nous as tout donné, tu nous conduis vers tout ce qui nous rend forts. Et Seigneur, nous accepterons ces paroles et nous les pratiquerons. Dans le nom de Jésus. Amen.